culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.
Chers amis, nous te souhaitons la bienvenue au Culte Espoir. Tu nous écoutes peut-être à la radio ou tu nous suis sur YouTube et nous te remercions d'avoir choisi de passer ce temps avec nous. Je suis Mildred et je suis accompagnée par Marilyn et Joachim. Nous avons le grand plaisir d'accueillir Lucas Marulli. Bonjour Lucas.
Bonjour.
Comment ça va?
Très bien, merci.
Mais c'est merveilleux de t'avoir parmi nous, vraiment. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, à nos auditeurs?
Oui, donc comme tu l'as dit, je m'appelle Luca Marulli, je suis italien et j'enseigne le Nouveau Testament et l'interprétation biblique à la faculté adventiste de Collonges-sous-Salève.
Ben, bravo, on aura plein de questions à te poser. Et tu es aussi marié?
Oui, je suis marié avec Irène, qui est fille de pasteur, entre autres. Et nous avons une fille qui s'appelle Maya et elle a 15 ans.
Wow, félicitations pour cette belle famille.
Merci.
Et Lucas, aujourd'hui, tu nous as proposé un sujet. Quel est ton thème?
Alors aujourd'hui, on va parler de trois forces qui s'agitent dans l'être humain, le désir, le sens du devoir et la force morale. Et on verra donc qu'est-ce qui donne du sens à nos agissements.
Ah ouais, tout ça attise notre curiosité et j'ai déjà quelques questions qui tournent dans ma tête. Prions pour que le Saint-Esprit nous guide, nous inspire et nous accompagne. Soyons à l'écoute, attentifs à ce que Dieu aimerait nous dire aujourd'hui. C'est parti pour une heure ensemble. Marilyn, tu nous prépares toujours de jolies réflexions pour nos chroniques Dieu dans ma semaine. Alors, que nous apportes-tu cette fois-ci?
Eh bien, par rapport au thème qui nous est proposé, eh bien, j'ai réfléchi, il y a ces tensions dans la vie. Je pense que vous les avez toutes déjà ressenties entre comment on se sent et l'attitude qu'on sait être bonne, ce qu'on devrait faire, etc. Et un exemple, ça peut être par exemple le doute et la foi. On a du doute et on sait qu'on devrait croire. Par exemple, Dieu va-t-il vraiment agir? Et on voit que le peuple d'Israël a souvent tendance à se plaindre, à remettre en doute les actions de Dieu, même quand il avait vu les grandes actions de Dieu à son égard. À la prochaine difficulté, de nouveau, il remettait Dieu en doute. Et personnellement, je me rends compte que j'ai aussi tendance à oublier ou à craindre que Dieu n'agisse pas dans ma situation, dans les situations autour de moi. Et pourtant, je l'ai vu agir et probablement vous aussi dans nos vies, on l'a vu.
Sûrement.
On sait qu'il est vivant, je sais qu'il entend, qu'il est tout puissant et parfois, malgré tout, mes pensées partent de travers et c'est pas évident de les faire revenir. Alors, je te partage une façon de prier que j'ai découvert et qui, lorsque je la mets en pratique, apporte quelque chose à ce moment de réflexion. Alors, au lieu de me plaindre et de remuer le problème, montrer l'ampleur de mon problème à Dieu et de craindre les impossibilités, eh bien, je le remercie pour les différentes promesses en lien avec cette situation que je vis, des affirmations, des promesses que j'ai trouvées dans mes lectures, souvent des jours alentours. Et cette façon de prier, ben, rebooste ma foi, elle me permet de mieux voir et m'attendre aux solutions de Dieu.
Et ça te rend automatiquement optimiste aussi, j'ai l'impression.
Ben ça, en tout cas, ça aide. Ça aide à reprendre espoir dans des situations où sinon on aurait tendance à tourner en rond. Alors, je vais te proposer un exemple qui est basé sur des textes qui m'avaient parlé ben, au moment où je les ai écrits. Et ces textes, ben, je te donne les références si tu veux t'en inspirer. C'est 2 Corinthiens 12 au verset 19, le psaume 23, Matthieu 26 verset 28, le psaume 32 verset 8 et Ésaïe 43, entre autres. Alors, ça pourrait être quelque chose comme ça. Seigneur, la situation actuelle que je vis me fait peur, je me sens fragile. Mais je te remercie, mon Père, parce qu'il est dit que ta puissance s'accomplit quand je suis faible. Je te remercie parce que ta présence est suffisante à mes côtés, alors même qu'en ce moment, je ressens quelque chose qui me manque. Tu as dit que tu es mon berger et que je ne manquerai de rien. Alors merci pour ta provision, même si je la vois pas encore. Merci pour ta houlette et ton bâton qui me rassure. Montre-les-moi alors que je passe par ces moments où j'ai besoin d'être rassurée. Peut-être je les vois pas toujours, mais merci pour cette promesse. Merci parce que tu veux me diriger et me montrer la voie à suivre, me conduire, pas parce que je fais tout juste, mais à cause de ton nom, à cause de qui tu es. Et c'est ton engagement envers moi que je ne mérite pas, mais sur lequel je compte, selon ta parole. Merci pour ton alliance que tu as fait en mourant pour moi sur la croix et qui me montre ton amour infaillible. Tu m'offres le pardon, tu me laves de tous mes manquements, alors même que je ne le mérite pas. Merci pour les chemins que tu prépares face aux tentations devant moi. Merci pour cette table en face de mes adversaires, de cette victoire qui est à portée demain dans ta présence. Merci pour ces chemins promis dans le désert, pour ces nouvelles façons de faire que tu es prêt à me montrer. Alors rends-moi sensible à ta voix. S'appuie comme ça sur les promesses, et bien c'est ce que nous aimons. C'est pour ça que nous aimons tant partager des promesses aussi avec vous.
Rassasira, rassasira encore. tout ce dont j'ai besoin, je trouve en toi. Source de ma vie, ton amour a su ravir mon âme.
Jamais je chanterai pour toi, Seigneur, et nous allons louer Dieu, notre Dieu, pour toujours. Et une des manières de louer Dieu, c'est quand on se rappelle de nombreuses promesses que Dieu nous a laissées. Et toi, Joachim, tu nous as préparé la promesse du jour pour aujourd'hui.
Ah oui, bien sûr. La promesse que je vais te partager se trouve dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, au verset 31. Mais ceux qui mettent leurs espoirs dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles. Ils s'envolent comme des aigles, ils courent sans se fatiguer, ils avancent sans s'épuiser. Dans la vie, nous rencontrons toutes sortes de difficultés, même en tant que chrétiens.
Ça, c'est vrai, malheureusement, d'ailleurs.
Nous rencontrons tous des problèmes, le chemin est accidenté, miné, plein d'embûches. Et c'est à ce moment-là que nous pouvons être découragés. Nous nous agitons, nous nous épuisons parce que nous avons compté sur nos propres moyens, sur nos propres capacités. Mais si nous écoutons la voix de Dieu, alors nous trouverons en lui la force et la persévérance qu'il nous faut. Tout comme l'aigle, laissons-nous porter par des courants ascendants. Alors, courons avec Jésus, et si nous tombons, il nous relèvera.
Entre savoir qu'on est invité à louer Dieu en tout temps et le faire, il y a des fois des différences et il y a besoin des fois d'une bonne dose de volonté. Et je te partage un secret que j'ai découvert dans le psaume 134. C'est le dernier d'une série de psaumes qui accompagnent les pèlerins de leur domicile vers Jérusalem quand ils y allaient pour les différentes fêtes. Et j'ai lu un commentaire qui m'a interpellée et qui disait, il faisait allusion au fait que les pèlerins, quand ils arrivent à Jérusalem, ils sont fatigués et ce psaume les invite à louer Dieu. Et il leur dit: bénissez l'Éternel, vous qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant la nuit, élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez Dieu. Et le commentaire faisait une allusion par rapport à la nuit, que peut-être c'est aussi la fatigue du voyage et le fait que ça devient difficile de louer Dieu. Et il relève que le psaume nous dit, ben, si les sons ne sortent pas parce que tu arrives plus, parce que tu es trop fatigué, la route a été dure, alors élève les mains vers le sanctuaire. Et c'est ce à quoi nous invite ce chant de Karine Orema.
Pensée fixée sur Jésus. te fait rage. Même si les événements s'enchaînent et se déchaînent, tiens-toi à lui, tiens-toi à lui. Même si les forces manquent jour après jour, même si les dettes s'accumulent, aucun secours. Même si tous les signes de la terre se présentent à toi, tiens-toi à lui, tiens-toi à lui.
Un chant que je te propose, c'est une prière, l'expression de notre souhait de ressembler à Jésus, à aller au-delà de nos réflexes, de nos habitudes pour vivre selon les valeurs du royaume de Dieu.
Je veux Jésus. Parler comme toi, aimer comme toi, prendre ma croix et m'humilier, pardonner comme tu l'as fait. Chantons ensemble, alléluia.
Cette semaine, je fais la connaissance de Nikolai, un pasteur ukrainien. Vous savez, depuis un moment déjà que j'aime bien faire la connaissance de nouvelles personnes et connaître leurs histoires. Nikolai a 48 ans, il est marié et comme nombreux autres habitants, il souffre à cause de la guerre dans son pays. Malgré ce conflit actuel, Nikolai est souriant, optimiste et il trouve la force de se remémorer du moment où Dieu les a protégés et inspirés. Écoutons ensemble ce témoignage avec la traduction d'Elena sur la voix de Christophe.
J'aimerais vous raconter une histoire qui s'est produite il y a quelques années en Ukraine. Quand la guerre venait de commencer à partir de l'est de l'Ukraine, j'étais pasteur, justement, dans la ville de Donetsk. J'étais responsable de la littérature spirituelle de la partie de l'est de l'Ukraine. Et voilà ce qui s'est passé dans la ville de Lugansk. Je vais vous raconter cette histoire. Une de nos sœurs de l'église a oublié son questionnaire de l'école du sabbat à l'arrêt des transports publics, juste à côté de l'église. Justement, c'était le livret d'études de l'école du sabbat, un vieux questionnaire, pas actuel, même pas de la même année. Voilà que les autorités responsables ont retrouvé ce questionnaire. Ils l'ont fouillé, ils ont essayé de comprendre ce que c'était, d'où ça venait, et ils ont compris que ça venait de l'église adventiste. Et ils sont venus pour interroger le pasteur de l'église. Justement, ils ont dit que c'était interdit de répondre. Vous connaissez, de distribuer de la littérature chrétienne. S'ils trouvaient plus de 2 exemplaires, c'était déjà interdit. Ils sont arrivés à l'église et ils ont annoncé tout ça. Ils ont dit, si on retrouve chez les mamies plus d'un ou 2 livres, ça veut dire que vous essayez vraiment de répandre votre conviction, et ça, on ne tolère pas. Les livres, on va les reprendre, et le pasteur sera incarcéré. On vous interdit de faire quelconque mission d'évangélisation. Pendant 1 mois et demi, Dieu nous a tellement bénis depuis la capitale de Kiev. Les frères, les pasteurs, les responsables ont apporté tout le temps de la littérature spirituelle dans cette église. Il est venu le moment où nous avons perdu cette possibilité. On ne pouvait plus pratiquer ça. Comme on n'avait plus la possibilité d'apporter des livres de la capitale, on a commencé à produire sur place les livrets pour l'école du sabbat, le questionnaire de l'école du sabbat. Dans la ville de Lugansk, où c'était interdit d'apporter ce genre de littérature, depuis Lugansk, de cette ville, on a commencé à distribuer des livres dans tous les alentours de cette région. Entre la région de Donetsk et Lugansk, il y avait des frontières. Pour vous dire qu'on n'a même pas été arrêté une fois ou interrogé, contrôlé. Nous avons toujours gardé les livres, on les cachait même pas trop. Les livres, la littérature, ont été cherchés dans des endroits tordus, compliqués, où ils pensaient qu'on les avait cachés. Mais on les a laissés complètement ouverts, comme ça, tout simplement. Dieu a fermé les yeux des douaniers. Et Dieu soit loué aussi parce que les pasteurs, les collaborateurs responsables pour ces littératures n'ont pas été embêtés. Ils n'ont pas eu de problèmes compliqués. Nous avons vu comment la main de Dieu a travaillé. Il a béni et il a porté le pain spirituel à ce peuple qui était dans le besoin. Je vois comment la main de Dieu fonctionne, comment elle se soucie d'apporter le pain spirituel à ces gens aujourd'hui qui sont dans le besoin. Même si les membres de l'Église ne lisent pas la littérature ou le questionnaire quotidien, mais c'est très important de se mettre à lire et de suivre la voie de Dieu. Voir le message tous les jours, ce qu'il va nous apporter. Il faut se rappeler de l'histoire ancienne, de comment Dieu a conduit et comment il a agi dans des situations si compliquées, et puis se dire qu'il faut avancer et faire tout ce qui est possible pour sauver ce qui nous entoure.
Lucas, nous te donnons la parole et nous avons hâte de découvrir le chemin de l'épanouissement.
Merci. Et en effet, j'aimerais parler d'épanouissement. Cette sensation d'être bien dans sa peau, d'être comblé, même dans des circonstances difficiles et face à des choix compliqués. Vous vous regardez dans le miroir et vous vous dites « Mon pote, tu assures, je suis fier de toi.
» Oui, oui, tous les jours. Pas du tout.
Voilà, ça c'est être épanoui. Mais qu'est-ce que c'est que l'épanouissement dans une perspective croyante? Pour certains, l'épanouissement est compris en termes de réussite, de santé, de richesse. C'est une sorte de relation magique avec Dieu. Si tu fais le mal, tu seras malade, pauvre, constamment en échec. Si tu fais le bien, tu seras en bonne santé, riche et une personne à succès. C'est l'idée de l'épanouissement qui est le fruit de l'obéissance, le salaire de la fidélité, la récompense d'une vie juste. Et alors, en bonne santé, sans remords ni regrets, les poches pleines, le cœur joyeux, une personne à succès admirée par tous, un exemple, le maître à la mesure de toutes choses, une personne qui vit le paradis sur terre avant d'avoir accès au monde à venir. Mais il y a aussi une autre manière de voir les choses. Vous savez, il y a une version de la Bible appelée la NBS, la Nouvelle Bible Second, qui traduit de la sorte un texte qui se trouve dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 13, les versets 9 à 11. Je lis juste un extrait. « Ce que nous souhaitons, c'est votre épanouissement. Au reste, mes frères, réjouissez-vous et tendez à l'épanouissement. » Alors, ce mot apparemment existe au moins dans une version de la Bible, et on peut se demander, mais l'apôtre Paul, quand il écrit, quel est le mot qu'il utilise dans sa langue, en grec? Et puis, on se rend compte que le verbe qui est utilisé, ben, je vais le dire, « katartizo », en fait, signifie à la base « réparer », ce qui est assez étonnant. Dans la très grande majorité des cas, ce mot-là se réfère à quelque chose qui a besoin d'être complété, affermi, réparé, rendu stable. Alors, par exemple, dans l'Ancien Testament, souvent, on utilise ce mot-là pour parler des murailles qui doivent être réparées ou des villes qui, après une guerre, doivent être reconstruites. Dans les psaumes, typiquement, ce mot est utilisé quand on dit à Dieu « S'il te plaît, Seigneur, affermis mes pas ». Ou encore, dans le Nouveau Testament, les futurs disciples de Jésus, ils sont en train de arranger ou de réparer les filets. Et c'est le même mot. Ou encore, dans Galates, Paul dit « redresser la personne qui tombe ». Redresser, c'est toujours le même mot. Ou encore, dans l'évangile de Luc, Jésus parle de tout disciple qui est bien formé, qui est bien donc complet dans son apprentissage. C'est encore une fois le même mot. Donc, dans cette perspective, l'épanouissement est un processus de reconstruction, de guérison, de fortification, de réparation. Alors, on pourrait dire que pour être épanoui, dans la perspective croyante, signifie regarder avec honnêteté ce qui est cassé, ce qui ne va pas, ce qui peut être réparé, et avec l'aide de Dieu, faire de notre mieux, en faisant aussi les bons choix. Mais comment faire le bon choix? Le choix qui donne du sens à nos agissements, le choix qui nous rend profondément heureux, apaisés, satisfaits. Ce choix qui émerge de la force et de la beauté que Dieu a cachée dans notre cœur. Alors, sans vouloir être psychologue, parce que je ne le suis pas, et en simplifiant un peu quand même, on pourrait dire qu'il y a trois forces qui s'agitent dans l'être humain. Trois forces qui nous habitent et qui nous poussent à agir, à faire des choix donc. Il y a tout d'abord le désir ou l'envie. Je veux cela, viscéralement, et si possible, tout de suite. Ensuite, il y a le sens du devoir. Faire ce qui est attendu. Répondre à l'attente des parents, des amis, de la société, de l'employeur, des collègues. C'est la pression des règles à respecter. C'est faire ce qui est exigé. Cette obéissance n'est pas dictée forcément par l'envie. Mais pourrait être l'expression de la contrainte, de la peur du châtiment, ou encore de l'espoir de la récompense. Mais il y a une troisième force qui s'agite en nous, et c'est ce qu'on pourrait appeler la force morale. Faire ce qui est juste, ce qui est bien, ce qui rend heureux un corps en souffrance, ce qui protège une victime, ce qui est conforme à la bonté, à la beauté, à la bienveillance, au respect de la vie dans toutes ses formes, aux valeurs que je chéris. Ces trois forces qui s'agitent en nous peuvent parfois s'accorder ou parfois se combattre. Or, il me semble que pour tendre à l'épanouissement, comme le dit l'apôtre Paul, pour être vraiment heureux et en paix en dépit des circonstances, il faut avoir le courage de faire ce qui est juste. Il faut faire émerger la force morale dont Dieu nous a fait cadeau. Il faut poser des actes où la priorité est accordée à ce qui guérit, répare, construit et affirme la vie. J'aimerais donc parler de deux exemples dans la Bible où cette force morale émerge en dépit des désirs et des contraintes.
Parce que ça se trouve déjà, on a un exemple pratique dans la Bible.
Il y en a plusieurs.
Okay.
Et donc j'ai choisi deux exemples dont l'un ce sont des femmes qui sont impliquées et dont l'autre ce sont des hommes. Comme ça, voilà, la parité est affermie.
On est à l'égalité.
Exactement. Donc le premier exemple se trouve dans le livre de l'Exode, au tout premier chapitre. Il s'agit donc d'une situation compliquée parce que Israël est donc en Égypte. Israël se développe et le pharaon, le roi d'Égypte, commence à avoir quelques craintes par rapport à la puissance que ce peuple pourrait représenter et aux prétentions qu'il pourrait avancer. Et alors, dans le premier chapitre, la Bible nous dit « Le roi d'Égypte dit aux sages-femmes des Hébreux, dont l'une s'appelait Shifra et l'autre Pua. » C'est important qu'elles soient nommées parce que typiquement, les femmes de la Bible ne sont pas souvent nommées.
Ouais, il y a très peu de femmes.
Donc, ça veut dire qu'elles sont vraiment importantes et elles ont marqué l'histoire. Et le pharaon leur dit, « Quand vous aiderez les femmes des Hébreux à accoucher, regardez bien l'enfant qui naît. Si c'est un garçon, tuez-le. Si c'est une fille, laissez-la vivre. » Alors, on pourrait se dire que ces femmes pouvaient être dirigées par cette envie de ne pas être punies, de cette envie de vivre ou de s'affermir ou d'être même récompensées par le pharaon. Elles pourraient aussi agir sous la contrainte parce que la loi, c'est la loi et donc c'est ce qu'il faut faire. C'est notre devoir d'être obéissant et notre allégeance. Voilà, il faut faire ce qui est demandé. Mais il y avait une autre possibilité de faire émerger leur force morale, c'était des sages-femmes, leur vie consacrée à la naissance, au bien-être de la maman et des enfants. Donc, est-ce qu'il faut faire ce dont on a envie? Est-ce qu'il faut faire ce qui est demandé? Ou est-ce qu'il faut faire ce qui est juste? Et alors, le texte continue en disant que les sages-femmes, elles respectaient Dieu, et elles n'obéirent pas au roi d'Égypte, et laissèrent les garçons vivre. Le roi d'Égypte n'est pas sot, il va les convoquer. « Pourquoi laissez-vous vivre les garçons ?» Et ce qui est très étonnant, c'est que justement dans l'Exode, où c'est marqué quand même dans les 10 commandements, tu ne porteras pas de faux témoignages, ces femmes mentent. Les sages-femmes dirent au pharaon, « Mais tu sais, les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes, elles sont vigoureuses, elles mettent l'enfant au monde avant l'arrivée de la sage-femme. » Donc voilà, elles mentent. Et le résultat, c'est quoi? Dieu fit du bien aux sages-femmes.
Donc Dieu a approuvé leur décision.
Il a approuvé, parce que les sages-femmes avaient reconnu l'autorité de Dieu. Et il leur donna une descendance. Donc voilà un premier exemple. Effectivement, parfois, il faut passer par des chemins un peu tortueux, mais l'important, c'est d'affirmer ce qui est vrai, ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui amène à la vie, même si, dans ce cas-là, voilà, il a fallu mentir. Et puis, un autre exemple, vous le trouvez dans le livre du Lévitique. C'est un peu particulière parce que cela concerne la famille d'Aaron. Aaron, le frère de Moïse, lui, il est prêtre. Et avec ses 4 enfants, il est donc dans le temple pour offrir des sacrifices. C'était son tour. Et il y avait une loi qui était assez dure, il faut reconnaître. Quand un prêtre est en service, s'il y a un deuil dans la famille, ils n'ont pas le droit de le manifester. Ils doivent continuer à travailler, ils ne doivent pas pleurer, ils ne doivent pas manifester des signes de chagrin, tout à fait. Et il arrive que deux des 4 enfants d'Aaron s'entretuisent dans le temple d'une manière pas appropriée et selon le texte, ils sont punis par Dieu et ils meurent. Et c'est le jour où Aaron et les deux autres enfants doivent offrir un sacrifice, d'ailleurs pour le pardon des péchés. Alors, Moïse, connaissant son frère, il lui rappelle la règle et dit « Toi, tu ne dois pas faire des choses bizarres aujourd'hui, tu dois donc faire ton travail. » Et Aaron, avec ses deux enfants, il va essayer de le faire. Et Moïse, tout de suite après, va quand même vérifier. Parce que, voilà, il sait que quelque chose de bizarre pourrait se passer. Donc, je lis dans Lévitique 10, à partir du verset 16. « Moïse s'informa au sujet donc, de l'offrande et il apprit que donc, la cérémonie voulait qu'une partie de l'animal soit brûlée, une partie soit mangée par les prêtres pour porter, d'une certaine manière, cette faute devant Dieu et qu'elle soit expiée. Mais tout avait été brûlé. On n'avait pas mangé. Alors, il s'emporta contre Aaron, il se mit en colère contre son frère et contre ses enfants, et lui dit « Pourquoi ? Pourquoi tu as fait ça ? La règle était claire, je t'avais prévenu, tu sais bien que c'est ton travail, ton job. » Et alors, à ce moment-là, Aaron, il va être très sincère avec son frère. Il va lui dire « Écoute, tu sais ce qui s'est passé aujourd'hui pour moi. Deux de mes enfants sont morts. Tu sais bien ce qui m'est arrivé. » Si aujourd'hui, après cela, j'avais mangé le sacrifice, cela aurait-il plu au Seigneur? En d'autres termes, oui, je veux faire ce qu'il faut faire, mais mon estomac est fermé, j'arrive pas à manger, le chagrin est au grand, et puis d'une certaine manière, le Seigneur est aussi... Bien, mes enfants sont responsables, mais c'est le Seigneur qui les a châtiés. Donc, il y a quelque chose dans mon cœur qui m'empêche d'aller jusqu'au bout. Je veux assurer, mais tu peux pas me demander d'aller au-delà.
Ça aura été hypocrite de sa part.
Tout à fait. Et alors Moïse, là, maintenant, il doit prendre une décision. Parce que la loi est claire. Lui, il est en colère. Et il a aussi envie de montrer que sa parole doit être respectée, et qu'il a une autorité et qu'on ne peut pas faire comme on veut. Mais il choisit de laisser place, de faire émerger dans son cœur ce qui est juste, c'est-à-dire la compassion, l'empathie. Et le verset 20 nous dit, Moïse trouva cette réponse satisfaisante. Ok, on laisse les choses comme ça. Alors, voilà, je voudrais simplement dire merci à celles et ceux qui veulent demander à l'Esprit de les guider encore aujourd'hui pour faire des choix courageux, pour oser ce qui pourra réparer ce qui est cassé et rendre notre entourage, notre famille, notre monde un endroit plus beau et plus juste. C'est là que l'on reçoit le cadeau d'être en paix avec soi-même, d'être profondément satisfait, réconcilié, rempli de sens, aligné avec les valeurs que Dieu a mises dans notre cœur. Ce qui est bien, ce qui est beau, ce qui est bon. Je termine avec un texte qui se trouve dans le livre des Proverbes, chapitre 2. « Mon enfant, si tu m'écoutes, tu découvriras que se conduire de façon juste, équitable et droite est le chemin du bonheur. » Alors, quel est le choix que je n'arrive pas encore à prendre aujourd'hui? Demandons à Dieu de nous donner la force d'oser et de peut-être pas forcément suivre nos désirs, ou ce qui est requis, ce qui est demandé, mais qu'il fasse émerger en nous la force morale pour prendre la décision qui est la bonne.
Thank you.
auditeur, chère auditrice, tu te trouves au culte Espoir et tu as pu écouter avec nous ce message de Luca Maroli qui nous a interprété sur ces différentes tensions entre nos désirs, nos devoirs, et puis ce qu'il est bon de faire, et puis l'épanouissement, comment être épanoui. Un vaste sujet, tu as abordé plein d'aspects. Merci beaucoup. Et alors les chroniqueurs, qu'est-ce qui vous a interpellé dans ce message? Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce que vous retenez?
Alors ce que j'ai bien aimé et qui m'a même surprise, c'était la définition en grec pour épanouir. C'est vrai que nous, bon, en tout cas, je sais pas, je pense que tout le monde pense que l'épanouissement, c'est d'être parfait, bien réussi, comme tu as très bien décrit au début. Et finalement, ce n'est pas ça. C'est la reconstruction, c'est réparer quelque chose. Et là, on est vraiment épanoui. Ça m'a surprise en bien.
C'est aussi le fait de reconnaître, je crois, avec honnêteté, ce qui est cassé. Mmh. Et ça montre, ça relève aussi qu'il y a des choses cassées, quoi. On n'est pas forcément en entier tout opérationnel, et avoir l'humilité de le reconnaître pour pouvoir réparer.
Et voilà que toute décision apporte quand même des conséquences, que ce soit positive ou négative, mais il y a des conséquences à la fin. Et ça change la vie. Ça change la vie, que ce soit la mienne, celle de l'autre, où ça change les vies des gens qui sont autour. Et là, quand tu as donné quelques exemples bibliques, j'ai pensé aussi à Rahab. Rahab, cette femme de la Bible qui était une prostituée, donc qui était loin d'être épanouie, parfaite, selon notre vision de choses. Et finalement, Rahab a quand même décidé de mentir quelque part, parce qu'elle a caché des espions, puisqu'elle a cru en Dieu. Et elle a cru à ce Dieu qu'elle a entendu parler. Et là aussi, elle a été approuvée par Dieu, puisqu'elle fait partie de la généalogie de Jésus-Christ.
Oui, c'est tout à fait vrai. On n'est pas en train de faire l'apologie du mensonge ici.
C'est vrai qu'il faut faire attention à ça.
Mais ce qui est important, c'est quand on essaie de faire des choses, de poser des actes, il faut comprendre quelle est la finalité de l'acte. Parce que même en essayant de faire ce qui paraît être juste ou légal ou permis, on pourrait effectivement retourner cela et le transformer en quelque chose qui soit destructeur. Mm-hmm. C'est important que, quand je parle de force morale ici et d'épanouissement, ça renverse un peu les paramètres d'aujourd'hui. L'épanouissement, c'est se regarder soi-même, se mettre en valeur et être mis en valeur par le regard des autres. Donc, ce n'est pas important pour moi de regarder les autres, c'est d'être vu, d'être regardé, d'être apprécié. Mmh. Alors que dans cette perspective de l'épanouissement, c'est regarder l'autre et voir ce qui est beau chez l'autre, ce qui est éventuellement cassé, ce sur quoi je pourrais...
Et chercher le bien de l'autre.
Tout à fait, chercher le bien de l'autre.
Et au pas final, forcément compte... le sien.
Et là, on se rend compte qu'on se sent vraiment bien. Quand on fait quelque chose de bien pour les autres, on se sent épanoui, pour utiliser le mot. Mais on sent que sa vie a un sens, que l'acte qu'on a posé a vraiment une valeur. Et ça rassasie.
Mmh. D'ailleurs, il y a même un exemple du frère André. Hein? Marilyn, toi, tu connais bien l'histoire.
Oui, ça me faisait penser à ce qui a été vécu aussi en Ukraine, avec ce dilemme de partager la parole de Dieu à des gens dans des situations où c'est pas autorisé, où il y a de la tension, mais où il y a un besoin parce que c'est nécessaire, et la foi en Dieu, il y croyait vraiment. Et ce que ça l'a amené à, effectivement, pas toujours devoir jongler avec les vies et les situations, et nombre de fois aussi où Dieu a fermé les yeux.
Tout à fait.
Sans forcément, il y a différentes façons, c'est pas toujours en disant peut-être un mensonge ou tout le temps de la même façon. Chaque situation, Dieu a pourvu pour eux de façon spéciale, donc dans ce ministère qu'il avait.
Pour cette semaine, je vous propose un très beau film dramatique, une histoire vraie, La colline aux mille enfants. Ça se passe durant la Deuxième Guerre mondiale en 1941, dans une France occupée par les Allemands, dans le petit village de Chambon-sur-Lignon, en zone libre, du côté du Puy-en-Velay. Le pasteur protestant Jean Fontaine, connu dans la région et au-delà pour ses prêches pacifistes et prononçant sans cesse l'amour de Dieu, officie dans cette petite commune du Velay. Au début du film, on peut voir Clara, une jeune femme, frappée à la porte du presbytère. Elle est la première réfugiée juive accueillie par le pasteur et sa famille. Myriam et David, un petit berlinois, arrivent eux aussi. Après un long voyage, ils sont accueillis par un certain Marc, le professeur de Marc du collège du village. De maths du village. S'en suivent bientôt des centaines d'enfants. Le pasteur, durant un message, parle de l'amour insondable de Dieu et de l'exemple donné par le Christ en matière de charité. Il engage son auditoire à recueillir ses enfants fuyant le nazisme. Il rappelle que pendant des années, ce sont les protestants eux-mêmes qui étaient persécutés dans cette région de feu de la France et devaient cacher leur Bible. Mais ce n'est pas pour plaire à tout le monde, puisque dans l'assistance figurent des miliciens et des collabos qui les menacent avec divers moyens de pression.
Oh.
Ouais. Le village décide cependant d'accueillir ces petits réfugiés qui arrivent de toute l'Europe. Ils sont intégrés aux enfants du village, mais tout le monde reste sur ses gardes. Les enfants sont logés et cachés dans les fermes alentour. La vie continue son cours.
Bah, les choses semblent s'arranger.
Semble, mais attends un petit peu. De leur côté, le pasteur et l'ensemble des professeurs organisent directement, discrètement, le changement d'identité de leurs protégés. Photos d'identité et apprentissage de leur nouveau nom sont vécus comme un jeu pour les enfants. Interrogé par la police sur la présence d'enfants juifs dans l'école, le pasteur répond qu'il n'y a que des enfants. Mais personne n'est dupe. Tout se gâte lorsque la rafle commence. Bien préparé, le village se vide. Les menaces et les pressions sur les résistants sont fortes. Pour un soldat allemand tué, sans dénonciation, c'est 10 civils qui sont menacés. Comment ces situations tendues vont-elles être résolues ? Suspense. En tout cas, les enfants échapperont au pire. À noter également une petite histoire d'amour qui traverse le film et y ajoute à son humanité.
Ah bah oui, il faut pas que ça manque. Hein. Je connais pas du tout ce film, mais il a l'air d'être vraiment beau.
Ah, c'est un très beau film où l'émotion est justement dosée, où personne n'est stigmatisé. On peut constater que grâce à la foi en Dieu et au respect de ses préceptes, les hommes ont su choisir le sens du devoir et la force morale, et faire la différence pour des centaines d'enfants. À conseiller à toute la famille, avec les parents, je vous propose d'écouter maintenant la bande-annonce.
Des enfants frappent à nos portes, sans parents, sans toit pour les protéger. Et il nous dit seulement, aidez-moi.
Mais on nous avait dit 3 ou 4.
Nous ne connaissons pas de juifs ici.
Arrête de faire le singe, c'est une photo d'identité. Parfait, au suivant.
À partir de maintenant, tu vas t'appeler...
Lisa Blumenthal.
Non. Maintenant, tu t'appelleras Lisa Mercier.
N'oublie pas la répétition, ça, au collège.
Hein? Mon Dieu, mais ils veulent ma peau.
On a fait notre part, maintenant, faut qu'on arrête. Hein?
C'est vrai. Nous, ces gosses, on les aime bien. On les a nourris, logés. Mais c'est devenu trop dangereux.
Tant qu'on n'a pas tout donné, on n'a rien donné.
Voyons, monsieur le pasteur, un homme comme vous ne ment pas.
Je ne sais pas qui est juif ou qui ne l'est pas. C'est une question que je ne me pose jamais sur quelqu'un. Ça, c'est la vérité.
Cette vérité peut réduire votre village en cendres.
Réveille-toi ! Les Allemands ! Cours avertir Tonnette ! Vite ! Vite ! Ils sont là ! Allons-y. Les enfants, vite.
Jamais.
Gaspard Joachimo, est-ce qu'on peut trouver ce film ?
Alors, comme c'est un vieux film, il date de 1994, il n'est pas très facile à trouver, mais tu peux quand même le dénicher sur le site chrétien.tv ou l'acheter en DVD, en ligne, ou encore tu peux aussi acheter le livre.
Ah oui, merci. Depuis quelques siècles, l'être humain essaye de découvrir le sens de la vie, de sa vie. Tout le monde veut s'épanouir et dans cette course incessante dans la quête du bonheur, on doit absolument prendre des décisions. Quelques-unes sont bien réussies, justes et bonnes, et d'autres ne sont pas vraiment idéales. Nous avons compris que trois forces motivent nos choix et que l'Esprit Saint fortifie surtout la force morale pour donner du sens à nos agissements. Je te propose, chers auditeurs, chères auditrices, de parler avec Dieu à travers la prière.
Notre Père, notre Dieu, nous te remercions parce que notre cœur est orienté vers toi par l'Esprit et par le Christ. Nous te remercions d'avoir mis dans chacun de nous cette force morale et ces valeurs par lesquelles nous pouvons nous sentir épanouis. Nous te demandons, Seigneur, de nous guider dans le choix, ce choix important que nous devons prendre, de nous aider à oser la bonne décision pour que nous soyons des disciples créatifs, justes, bons et épanouis. Au nom de Jésus, amen.
Tout à l'heure, on a parlé de frère André qui n'avait pas froid aux yeux pour sa foi.
Et oui, c'est vrai. Comment pourrions-nous marcher dans ses traces ? Est-ce qu'il y a moyen de s'impliquer autour de nous ?
Alors oui, pour cette chronique du jour, je te propose de trouver une action pour soutenir des personnes qui sont persécutées à cause de leur croyance en Christ. Voici une idée de comment tu peux soutenir ces personnes et faire la différence. Tu peux par exemple aller voir sur le site de l'association que Frère André a créé, Portes Ouvertes. Le site c'est portesouvertes au pluriel parce qu'il y a plusieurs portes qui sont ouvertes, .fr ou .ch. Et dans la rubrique Être actif, tu trouveras plusieurs idées pratiques. Par exemple, prier. À ce sujet, il nous encourage. En priant, c'est comme si vous vous rendiez vous-même dans les régions les plus hostiles. Par la prière, vous pouvez franchir les frontières les plus hermétiques. Nous pouvons contribuer de manière importante au soutien des chrétiens persécutés en priant régulièrement pour eux, individuellement ou collectivement. Sur le site, il te propose une liste de sujets de prière, de personnes ou de pays à soutenir. Frère André dit lui-même « Si nous comprenions la puissance de la prière, nous serions à genoux une centaine de fois par jour et lui demanderions des choses qui bouleverseraient le monde. »
Waouh ! Ça donne envie de vivre la prière comme ça. Et du coup, alors l'idée serait non pas juste de prier un coup comme ça, de temps en temps, mais plus de le faire comme entre guillemets, un parrainage ou un engagement sur la durée à prier
ah
pour...
Ah oui, ça m'avait l'air un peu trop facile. Hein.
Ah ouais.
c'est exactement ce que vous dites. Hein. Et il est aussi possible, plus concrètement, si on veut décrire notamment aux prisonniers, quand on écoute leurs témoignages, on se rend compte du soutien vraiment que ça leur apporte. Écoute, ce sont là quelques idées, mais d'autres ministères peuvent t'inspirer peut-être aussi. Soutenir par exemple les pasteurs et les équipes en Ukraine, comme on l'a entendu dans le témoignage, ou d'autres associations impliquées dans l'évangélisation. Alors, sens-toi libre.
Bah, super, merci beaucoup Joachim pour cette proposition d'action. Tu nous mets vraiment au défi, hein. S'engager, prier plusieurs fois, une centaine de fois par jour.
C'est ce qu'il a dit. Hein.
Merci beaucoup en tout cas pour vos chroniques, pour vos partages. Et Lucas, je te remercie aussi d'être venu, d'avoir pris du temps pour préparer ce message. Et merci d'avoir vécu ce culte avec nous.
Merci, merci à vous.
Tu nous as apporté de quoi réfléchir et aussi beaucoup d'encouragement. Tu reviens la semaine prochaine avec une autre équipe et tu nous proposes de connaître Dieu par l'office.
Avec plaisir.
Chers amis qui nous écoutent, merci d'être avec nous fidèlement et je te souhaite d'être épanoui et que ta vie soit en accord avec Dieu. Merci pour ton soutien et pour ta compagnie. Je te souhaite aussi une très belle journée, un joyeux sabbat et je te dis à bientôt.
C'était le culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.